Bonjour à tous et à toutes. Ça fait trois petites semaines qu'on ne s'est pas vu. Les vacances, c'est fini pour moi. Il y en a d'autres qui sont encore, certains les commencent même, les chanceux. Ah, merci beaucoup. Vous m'avez pas trop entendu pendant trois semaines, là, mais pendant le reste du mois d'août, vous allez m'entendre pas mal. Je pense que je vais en enchaîner quelques-unes, peut-être même 4 ou 5 de prédications. Donc vous allez m'entendre assez régulièrement. Du coup, je me suis dit, tiens, il y avait un truc que j'avais envie de faire, qui me demandait plusieurs dimanches consécutifs. Et j'ai dit, l'été, c'est l'occasion. J'aimerais bien que pendant le reste de ce mois d'août, on fasse un petit parcours ensemble. Un parcours qui se fera en étudiant une suite de récits bibliques, pour la plupart très très connus. Très connus, ça ne veut pas dire très bien compris, en tout cas très connu, et j'aimerais que nous explorions ensemble tout simplement le début de la Bible. Les chapitres 1 à 11 de la Genèse, on ne va pas faire les 11 chapitres même en 4 fois, ou on ne va pas tout faire, on va prendre des passages clés quand même. C'est un parcours, hein, donc ça va un peu se suivre quand même, chaque prédication se suffira à elle-même, vous inquiétez pas, et si vous en manquez une, c'est pas grave, on va mettre les fichiers audio et PDF des prédications sur le site internet et sur le Facebook, même si avec les vacances on a pris du retard, mais on va rattraper tout ça cette semaine, j'espère. Et faut que je rattrape aussi pas mal de mails du coup qui sont accumulés en trois semaines, mais on va y arriver. Avant de commencer à parcourir ces histoires du début de la Genèse, j'aimerais vous parler un petit peu brièvement de leur auteur. Celui qui les a écrites. La Bible attribue, petit test, les 5 premiers livres de la Bible à Moïse. C'est bien. Moïse, ce prince d'Égypte, né de parents hébreux, puis recueilli et adopté par la fille de Pharaon. Moïse, en tant que prince d'Égypte, vous l'imaginez, c'est un homme très très instruit, il a reçu une éducation très poussée. Et ça se ressent dans cette découverte du début de la Genèse, ça se ressent dans les textes, on va voir que rien n'est écrit au hasard, les récits sont structurés d'une manière super brillante, très belle, on sent que c'est l'œuvre d'un érudit. Moïse est un homme intelligent, instruit, et lorsque l'Esprit de Dieu va inspirer Moïse pour rédiger ces textes, il va se servir de toutes ces qualités-là pour l'inspirer dans sa rédaction. Et ce matin, nous allons commencer ce parcours par le tout début de la Bible, tout premier récit, le premier chapitre de la Genèse, dont je vous invite à suivre la lecture. On va lire en entier et trois petits versets du chapitre 2 aussi également. Au commencement, je lis dans la version Summer, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux d'en dessous de l'étendue des eaux d'au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela cette étendue « ciel ». Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le deuxième jour. Et Dieu dit « Je veux que les eaux d'au-dessous du ciel se ramassent en un seul endroit, afin que la terre ferme apparaisse. » Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme, la terre ferme et mer l'amas des eaux. Et Dieu vit que c'était bon. Et Dieu dit « Que la terre se couvre de verdure, d'herbes portant sa semence, et d'arbres fruitiers produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence partout sur la terre. » Et ce fut ainsi. La terre fit germer de la verdure, de l'herbe portant sa semence selon sa sorte, et des arbres produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le troisième jour. Et Dieu dit que dans l'étendue du ciel, il y ait des luminaires pour que l'on distingue le jour de la nuit et pour marquer les saisons, les jours et les ans. que dans l'étendue du ciel, ils servent de luminaires pour illuminer la terre. » Et ce fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand des deux, afin qu'il préside au jour, et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles, et il les plaça dans l'étendue du ciel afin d'illuminer la terre, de présider au jour ainsi qu'à la nuit, et de séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Tous ensemble, il y eut un soir et un matin. Ce fut le quatrième jour. On reprendra tout ça ensemble à chaque fois. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une multitude d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Alors Dieu créa les grands animaux marins et tous les êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux selon leur sorte et tous les oiseaux ailés selon leur sorte. Et Dieu vit que c'était bon et il les bénit en ces termes. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux aussi se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur sorte, des bestiaux, des reptiles, des insectes, des animaux sauvages selon leur sorte, et ce fut ainsi. Dieu fit les animaux sauvages selon leur sorte, il fit les bestiaux selon leur sorte, les reptiles et les insectes selon leur sorte, et Dieu vit que c'était bon. Et Dieu dit, faisons les hommes, pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître, dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Et Dieu dit « Voici, je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je donne aussi à tout animal vivant sur la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se meut à ras de terre et à tout être vivant, toute plante verte pour qu'il s'en nourrisse. » Et ce fut ainsi. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Au septième jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le septième jour, il en fait un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Un texte assez long, très connu, je pense, je l'ai lu assez vite, hein, vous avez vu quand même. Je pense que ça doit être un des textes les plus connus de la Bible. Même par ceux qui ne connaissent pas du tout la parole de Dieu ou qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Mais ça doit être aussi un des textes, peut-être, qui a le plus fait couler d'encre. Il y a plein de gens, plein de théologiens, plein de prédicateurs, de professeurs de théologie qui ne sont pas d'accord sur le sens de ce texte, sur ce qu'il raconte. Et d'ailleurs, si à la fin de cette prédication, vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Mais avant de chercher le sens de ce texte, je vais faire avec vous ce que je ne fais pas souvent, on va faire un peu d'exégèse, c'est-à-dire le travail qui conduit normalement à une prédication. On va chercher à savoir ce qu'est ce texte. Est-ce que c'est un récit historique qui raconte des faits, qui décrit des événements chronologiques? Ou est-ce que c'est un poème qui va donc utiliser des images pour nous transmettre pas une succession d'événements, mais un message global? C'est grosso modo les deux positions qui existent. Pour ça, on va regarder tout d'abord rapidement la structure de ce texte. Et ce qui saute aux yeux assez rapidement, c'est qu'il y a un refrain qui revient 6 fois. Je pense que vous l'avez remarqué, vous l'avez repris avec moi tous en cœur. Ce refrain, c'est « Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le premier, deuxième, troisième, sixième jour. » Ce refrain sépare 6 jours de création et 1 jour de repos à la fin. Et les 6 jours de création ont quelque chose d'assez étrange. Ils ne semblent pas tout à fait logiques si on les prend dans l'ordre chronologique. Même à l'époque de Moïse, hein, où les connaissances scientifiques n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Même à cette époque-là, il y a des choses qui paraissent un peu bizarres. C'est vrai, Dieu crée la lumière à quel jour ? Au premier jour. Mais dans notre univers, quelle est la source de toute lumière ? Le soleil, les étoiles, les astres. C'est même la seule source de lumière, à part quelques petits insectes fluorescents, mais sinon, c'est la seule source de lumière, les astres, les étoiles, comme notre soleil. Mais la lumière est créée au premier jour, et les astres, quatrième. Ça paraît bizarre. De la même manière, comment le refrain peut-il dire « il y eut un soir, il y eut un matin » alors qu'il n'y a pas de soleil et de lune pour marquer les soirs et les matins ? Sans soleil, sans lune, pas de lever de soleil dont nous a parlé Raphaël tout à l'heure. Ça paraît bizarre. Encore une chose, les plantes vivent essentiellement grâce au soleil, pour la plupart des plantes. Mais ici, elles sont créées avant le soleil, au troisième jour, et le soleil au quatrième. Quand on prend la succession des jours dans un ordre chronologique, on a l'impression que ça ne marche pas du tout. Et ça paraît bizarre venant d'un homme aussi instruit et intelligent que Moïse, surtout inspiré par le Saint-Esprit. En revanche, il y a quelque chose qu'on peut remarquer. Il y a des mots qui reviennent beaucoup dans certains jours. Je vous ai mâché un peu le travail. Par exemple, au jour 1, Dieu crée la lumière, le jour et la nuit, et au jour 4, Dieu crée les luminaires pour faire de la lumière, pour présider au jour et à la nuit. Pareil entre les jours 2 et 5. Au jour 2, Dieu crée le ciel et la mer. Et au jour 5, Dieu crée les animaux marins pour remplir la mer et les oiseaux pour remplir le ciel. Toujours pareil entre les jours 3 et 6. Au jour 3, Dieu crée la terre sèche et les plantes. Et au jour 6, Dieu crée les animaux terrestres et les humains pour remplir la terre sèche en se nourrissant entre autres des plantes. Au final, on a l'impression que dans les jours 1, 2 et 3, Dieu crée des espaces, des lieux, des choses à remplir parce qu'elles sont vides. La lumière, le ciel, la mer, la terre sèche, tout est vide. Tout est vide. Et dans les jours 4, 5 et 6, Dieu va remplir ces espaces de création avec tout un tas de créatures, les astres, les oiseaux, les poissons, les animaux terrestres et les humains. Un texte organisé en deux groupes de trois jours qui sont rythmés par un refrain. Et ces deux groupes de trois jours nous racontent la création, pas dans un ordre chronologique, historique, mais dans un ordre thématique. Dieu crée des espaces qui sont vides, puis Dieu les remplit de tout un tas de créatures. Deux groupes de trois jours, organisation thématique, refrain. Je suis désolé, mais ça ressemble quand même beaucoup à un poème. Effectivement, pas un poème comme on l'écrit aujourd'hui, mais je vous rappelle que ce texte a peut-être 3200 ans. On n'écrivait pas pareil à l'époque. Un poème qui ne va donc pas chercher à nous raconter la création de manière scientifique, historique, chronologique, mais un texte qui va, de manière poétique, nous raconter le vrai sens de l'œuvre de création que Dieu a faite. Et justement, si ce texte est un poème, s'il ne nous raconte pas des faits scientifiques ou historiques, qu'est-ce qu'il peut bien nous dire, essentiellement sur Dieu, ce monde et nous-mêmes ? Eh bien, tout d'abord, ce texte nous plonge d'entrée, dès le début de la Bible, dans le mystère de la personne de Dieu. Un Dieu unique, mais qui est trois en même temps. Un Dieu unique, mais trinitaire. Dieu le Père qui ordonne, qui décide, qui dicte. Dieu le Fils qui est aussi appelé parole de Dieu dans l'évangile de Jean. Et ici, Dieu crée par sa parole. Et l'évangile de Jean nous dit qu'en fait, il crée par l'intermédiaire du Fils. Et enfin, Dieu le Saint-Esprit qui est présent au début de ce texte quand on nous dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dès le début de la Bible, nous sommes plongés dans le mystère de Dieu lui-même. Un Dieu unique, mais un Dieu trinitaire, qui est un et trois en même temps. Un Dieu tout-puissant, qui est tellement différent de nous, tellement supérieur à nous, tellement complexe que ça nous semble peut-être difficile de pouvoir vivre une relation personnelle avec lui sur la simple base de ce texte. Et la création dans ce texte est présentée comme harmonieuse. Dieu vit que cela était bon. On aurait pu l'ajouter au refrain peut-être, parce que ça revient à chaque fois. Cette création complexe, elle est belle, elle est bonne, tout est bien coordonné, tout fonctionne parfaitement. Et ça, c'est quelque chose, je vais m'arrêter un tout petit peu là-dessus, parce que ça me touche personnellement énormément. Avant de faire mes études de théologie pour être pasteur, j'ai fait 2 premières années de médecine, que j'ai ratées, et 5 ans d'un master de sciences de la vie et de la terre. La science, pour moi, c'est chercher à comprendre toute la beauté et toute la complexité, toute l'harmonie du fonctionnement de la création de Dieu. La création fonctionne, elle marche, elle dure, elle est soumise à des lois physiques, mathématiques qui font que tout marche, tout est harmonieux. Et la science, pour moi, c'est chercher à observer, à comprendre comment est-ce que tout ça fonctionne. Comment Dieu a-t-il fait toutes ces choses ? Ce texte nous rappelle également que dans la création, rien n'est divin. Dans la création, pas d'autre Dieu que le Créateur. Tout n'est que créature. Rien dans la nature n'est divin. Oui ? Je ne vais pas m'attarder sur ce mystère-là qui mériterait une prédication entière. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et on pourra discuter, si vous voulez, à la fin de ce culte. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment un mystère, la Trinité. Ça reste une affirmation biblique qu'on a parfois du mal à comprendre. Mais je ne vais pas m'arrêter sur ce sujet-là, même si on y est plongé. Et ce texte, du coup, nous rappelle qu'il n'y a qu'un seul Dieu, effectivement. Il n'y a que le Créateur. Alors pour nous, Européens du XXIe siècle, ça peut paraître normal que la nature ne soit pas une divinité. Nous ne voyons pas des dieux dans les morceaux de nature. Mais à l'époque de Moïse, lorsqu'il a écrit ce texte, il y a plus de 3000 ans, c'était une révolution. Tous les peuples de l'époque avaient plein de dieux différents. Et souvent, ils adoraient des éléments de la nature, ce que ce texte présente comme créature. Les Égyptiens, parmi lesquels Moïse a grandi, adoraient le soleil, le dieu Ra. Les Mésopotamiens adoraient la foudre, le dieu Baal. Mais ce texte de Genèse 1 nous dit que toutes ces choses ne sont pas des dieux. C'est que des bouts de création. Le soleil, la lune, la foudre, nous on ne les voit plus comme des choses divines. En revanche, je pense qu'il y a une créature que la société moderne a tendance peut-être à diviniser. C'est l'être humain. L'homme a tendance à se prendre pour le dieu de cette planète, qui peut en faire ce que bon lui semble, qui a tout pouvoir sur elle, un dieu qui décide seul de sa propre vie, qui peut choisir lui-même ce qui est bien ou ce qui est mal, qui est totalement libre. Mais seul Dieu est maître de la création. C'est ce que nous apprend ce texte. Seul Dieu décide du bien et du mal, seul Dieu décide de ce qui est bon, nous dit ce texte. Seul Dieu est totalement libre. Il n'est soumis à aucune contrainte, à aucune opposition dans son œuvre de création. L'être humain, parfois, peut-être, se prend pour un Dieu. Et pourtant, ce texte de la Genèse nous présente l'être humain comme une créature parmi d'autres. Une créature un peu spéciale, on va en parler, mais une simple créature, quand même. Et c'est une sorte d'humilité qu'il nous faut peut-être redécouvrir, que notre monde moderne a besoin de redécouvrir. Nous sommes des créatures de Dieu. C'est lui qui nous a fait. Notre vie, c'est lui qui nous la donne. Notre monde, c'est lui qui l'a façonné. C'est lui qui le maintient en l'existence à chaque instant. Et lorsqu'on prend conscience que nous sommes des créatures, que tout est cadeau de Dieu, tout est bonté, comme nous disait Raphaël ce matin, que ce monde est un cadeau, la vie est un cadeau, alors on ne vit plus pareil. Notre vie prend un sens tout nouveau. On veut vivre plus seulement pour nous-mêmes, mais en relation avec celui qui nous a créés. On cherche à le connaître, on cherche une relation avec lui, on cherche sa volonté également, ce que lui déclare bon. On vit pour lui, en fonction de lui, pas uniquement pour nous ou en fonction de nous. Tout dans ce monde n'est que créature, nous également. Et donc, l'origine et le sens de toute chose se trouvent dans celui qui est la source, celui qui est le créateur, en Dieu. Oui, la vie humaine n'a aucun sens sans Dieu. Nous sommes une créature parmi d'autres, mais tout de même, une créature un peu spéciale. On le voit quand même dans ce texte. Et justement, ce texte nous fait comprendre cela. L'humain, j'avais oublié de mettre ça. Oui, non, c'est bon, c'était pour maintenant. L'humain est la seule créature avec qui Dieu décide d'avoir une relation privilégiée, particulière. Et dans le texte de la Genèse, Dieu dit ceci: « Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image. » D'autres traductions disent « Faisons l'homme à notre image. » Mais j'ai choisi celle-là volontairement: « Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image. » Bien souvent, on comprend de ce passage que les êtres humains ressemblent à Dieu. Eh bien, je pense que ce n'est pas le sens de cette expression. Parce que les mots hébreux utilisés ici, qu'on traduit en français par « image » ou « ressemblance », sont les mêmes que ceux qui étaient utilisés à l'époque de Moïse par les rois, les empereurs, les chefs, pour déléguer une certaine autorité ou une certaine tâche à une personne. Un roi pouvait nommer quelqu'un gouverneur d'une région en lui disant « Je t'envoie dans cette région comme mon image. » C'est-à-dire que le gouverneur va représenter son roi. Il aura une mission particulière, il représente l'autorité de son roi, il est l'image de son roi dans une région donnée. Lorsque les êtres humains sont créés comme image de Dieu, je pense qu'on ne parle pas ici de ressemblance physique. On parle d'une relation particulière, on parle d'autorité et on parle de responsabilité. Dieu a choisi l'être humain parmi toutes les créatures pour avoir une relation particulière avec lui. L'humain ne sera pas qu'une créature parmi les autres, il sera le gouverneur de Dieu, son représentant sur cette terre. Et en tant que représentant de Dieu, les humains ont accès à une relation particulière avec leur maître, avec leur roi, avec Dieu, une relation que les autres créatures n'auront pas, une relation intime, de dialogue, de confiance, d'amour réciproque. Mais également, en tant que représentants de Dieu, les humains reçoivent une mission, celle d'un gouverneur, bien gérer le lieu où ils sont placés. L'humain doit bien gérer la création de Dieu. Et ce petit passage biblique, je pense, est une véritable bombe, même encore aujourd'hui, parce que les humains ont toujours, toujours cherché à dominer, à être supérieurs, supérieurs aux humains, supérieurs aux autres peuples, supérieurs aux autres couleurs de peau, supérieurs aux autres sexes. Mais dans ce passage, Dieu donne une valeur immense et identique à tout être humain. Tous, hommes ou femmes, de toutes origines, de toutes conditions, Dieu nous a tous désignés comme son image, ses représentants sur cette terre. Chacun, chacune, nous avons un même statut, une même valeur à ses yeux. Tous égaux, tous précieux pour notre Créateur. Tous nous avons accès à une relation particulière, personnelle auprès de lui. Et tous nous recevons une même responsabilité. Nous sommes appelés à bien gérer et à prendre soin de sa création. C'est la mission qu'il nous confie. Au final, c'est pas si mal pour un si petit texte. Ce texte de la Genèse pose dès le début le mystère de la personne de Dieu. Il pose aussi dès le début le sens de la vie de tous les êtres humains. Ce texte nous donne l'équilibre de vie que nous devons rechercher. Il faut avoir conscience de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes des créatures, mais nous avons un statut différent des autres créatures. Nous sommes les images de Dieu, ses représentants. Les autres créatures n'ont pas ce même statut, cette même importance pour Dieu. Peut-être de nos jours, il est bon de s'en rappeler lorsque certaines modes actuelles cherchent à donner les mêmes droits ou la même valeur aux animaux qu'aux êtres humains. Mais pour Dieu, ce n'est pas le cas. L'humain a un statut particulier. Mais il nous faut aussi avoir conscience que cette mission, cette responsabilité, prendre soin de la création de Dieu, mission qui nous montre que notre statut particulier aux yeux de Dieu ne nous permet pas de maltraiter sa création ou ses créatures. Bien au contraire, bougeons-nous pour la préserver. Et enfin, il nous faut avoir conscience de notre égalité totale, pleine et entière devant Dieu. Une égalité que nous ne voyons pas toujours dans ce monde, mais qui est réelle pour notre Créateur. La Bible remet tous les humains, hommes et femmes, côte à côte, une même valeur, un même statut, un même prix et une même mission. Il y a déjà 3200 ans, la Bible faisait cela dès ses premières lignes. Un Dieu immense, tout-puissant et mystérieux, une création belle, bonne, complexe, les humains représentants de Dieu sur terre, en relation avec leur maître, responsable devant lui de la bonne gestion de la création. On est mal barré à ce sujet, mais on va y travailler. Des humains égaux et tous précieux aux yeux de Dieu. Voilà les grandes bases que pose ce très court poème. Mais il reste un tout petit point sur lequel je vais finir, parce que pour moi, c'est de loin le plus beau. Pourtant, c'est déjà pas mal ce qu'on a vu. Vous vous souvenez du refrain ? Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut la fin du premier jour. Ce refrain marque le début et la fin de chaque jour du poème. Mais, non, il y a un jour sans le refrain. Hein ? Le septième jour. On n'a pas dit le refrain à la fin du texte. Dans le poème, le septième jour n'a pas de fin. Il n'a pas de soir. Et ce septième jour qui n'a pas de fin dans ce texte, c'est justement le jour du repos de Dieu. Dans ce poème, il ne faut pas chercher des jours de 24 heures ni une chronologie, on l'a déjà vu, mais à un moment donné, commence le temps du repos de Dieu. Et ce repos de Dieu, s'il n'a pas de fin dans le texte, c'est voulu. C'est parce qu'il n'a pas de fin, tout court. Le temps du repos de Dieu, nous y sommes encore, aujourd'hui. Ce repos de Dieu, ce n'est pas un temps où Dieu n'agit plus. Ce n'est pas un temps de sieste, d'inaction, de vacances divines. Au contraire, Dieu agit sans arrêt dans ce monde. Non, ce repos, c'est celui dans lequel le Christ nous appelle encore et toujours à venir lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » Le temps du repos de Dieu, qui s'ouvre au début du chapitre 2 de la Genèse, c'est le temps où le Seigneur appelle les humains à entrer dans sa présence, dans son royaume, dans une relation avec lui, dans son amour, dans sa paix. Ce texte de la création, qui pouvait sembler peut-être un peu froid, un peu distant, avec un Dieu tout-puissant qui va en plus confier une responsabilité lourde à l'être humain, eh bien, ce texte se termine justement par ce qui est au cœur du projet de création de Dieu. Notre Créateur a tout créé pour entrer en relation avec nous, par amour. Cette relation est pour lui plus précieuse que les montagnes, que les mers, que les étoiles, que tout le reste de sa création. Cette relation est si précieuse à ses dieux que Dieu ira jusqu'à donner la vie de son Fils afin de nous sauver et de nous ramener à lui, de nous faire entrer à nouveau dans son repos. Cette terre et cette création passeront, nous dit la Bible, mais la plénitude de notre relation avec Dieu, ça c'est une promesse qui est faite pour l'éternité. C'est le but même de Dieu. Voilà donc comment débute la parole de Dieu. Nous verrons dimanche prochain que ça va vite se gâter. Mais en attendant, recevons ce message si central dans la Bible et si central pour notre vie. Dieu nous aime. Et il a tout créé dans le seul et unique but que nous puissions entrer en relation avec lui, dans son repos. Amen.